Salut mes potos, mes petites cailles. Et bienvenue dans Ami, le podcast où l'on parle verre, épices et voyage dans l'espace. Salut, moi c'est Marie et mon frère va tous vous tuer.
J'ai tenté un pas truc, mal. Je sais pas si ça fonctionne.
Pas mal, pas mal. Et moi c'est Anaïs et mon nom est un mot qui tue. C'est très triste, c'est très très triste. C'est déjà la fin de cette saison d'Amis, navet au chef-d'œuvre, dans laquelle on a essayé de réexaminer certains chefs-d'œuvre oubliés ou échecs notoires de l'histoire du cinéma. On a beaucoup rigolé, on a un peu pleuré aussi, et on a beaucoup apprécié de lire tous vos retours. Merci beaucoup.
Et merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs théories sur là où la parodie de la scène de la piscine de Showgirl a pu apparaître. Quelqu'un nous a dit que c'était dans Le Prince de Sicile. Alors, je ne pense pas que ce soit là où je l'ai vu, parce que je n'ai jamais vu de film. Et je crois que quelqu'un d'autre m'a cité Scary Movie, et voilà.
Pour cet ultime épisode, on s'attaque à un monument de la science-fiction, Dune. Non, pas celui de Denis Villeneuve, dont le deuxième volet est actuellement en salle, mais celui de David Lynch, sorti en 1984 avec une réception beaucoup moins enthousiaste. Après Twin Peaks, c'est donc la deuxième fois, Marie, que je te fais découvrir une œuvre d'un de mes cinéastes préférés. On va entendre ce qu'on s'est dit juste avant de regarder Dune. Quel est ton rapport à Dune ? Tu as lu le livre ?
J'ai lu le livre, oui. Le livre 1, donc j'imagine que c'est celui qui est couvert par le film et donc celui qui est couvert aussi par les deux premiers films de Denis Villeneuve que j'ai vu aussi. Et là, je suis en train de lire Dune Messiah, donc le deuxième livre.
D'accord. Qu'est-ce que tu sais du Dune de Lynch ?
Bah, je sais qu'il a été très critiqué, je sais qu'il est avec Kyle MacLachlan et je sais aussi, attends, c'est qui ? Il y a un rôle, ah oui, c'est Sting qui joue le Harkonnen, je pense. Et ça, je sais que c'est surtout Sting qui s'en est un peu pris plein la gueule. Je sais que c'est un film qui a failli ruiner la carrière de Kyle MacLachlan. C'était un de ses tout premiers rôles, c'était au début des années 80. Mais au final, ça a quand même commencé une collaboration entre lui et David Lynch. Mais en tout cas, bon, c'est un film qui a été vraiment conspué par la critique.
C'est aussi un film qui a été conspué par David Lynch, il faut le savoir.
Et en fait, bon, bah, de toute façon, c'est ce qui est intéressant avec la version de Denis Villeneuve, c'est que Dune était réputé comme un chef-d'œuvre inadaptable un peu, donc et d'autant plus après le film de David Lynch. Donc je l'ai jamais vu, mais ça fait longtemps que je veux le voir parce qu'en plus j'aime beaucoup le livre, j'aime beaucoup cet univers et je suis curieuse de voir ce que Lynch pourrait en faire.
Et du coup, c'est le premier film de Lynch que tu vas voir de toute ta vie.
Ah bah non, parce que j'ai vu Twin Peaks.
Ah oui, c'est vrai, t'as vu Firewalk With Me. Ouais, c'est vrai. Donc, le deuxième film de Lynch. Mmh. Tu commences pas par les plus faciles, hein, franchement. est-ce que tu penses que tu vas aimer ?
Je pense que je vais aimer certains éléments, parce que de toute façon, c'est une histoire que j'aime bien, c'est un univers que j'aime bien, et je fais quand même confiance à David Lynch pour avoir fait des choix esthétiques ou des choses comme ça qui vont me plaire, ou en tout cas qui vont m'intriguer. De ce que j'ai entendu, c'est quand même pas un super film. Et donc, à mon avis, je vais peut-être avoir une certaine frustration. Et en plus, je suis curieuse de voir comment, justement, ils compressent une aussi grosse intrigue dans un seul film. Et vu que je viens de voir le deuxième, quand même, de Denis Villeneuve, et que je l'ai beaucoup, beaucoup aimé, je ne sais pas si la comparaison
va être rude.
Ouais. C'est quoi ton rapport à ce film ?
Alors, c'est clairement pas mon préféré de David Lynch, pas du tout. Je ne trouve pas que ce soit un excellent film. Après, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection et un film qui a beaucoup de charme. Donc, c'est ce qu'on a tendance à beaucoup dire dans cette saison par rapport à certains films qui ne sont pas très bons. Il y a plein d'éléments dedans que j'adore. Il y a certains éléments dedans que je trouve plus réussis que chez Villeneuve. Mais globalement, oui, enfin, c'est un film qui a énormément de défauts et c'est un film sur lequel David Lynch s'est cassé les dents, en fait, lui-même. A énormément de regrets par rapport à ce film, et notamment le fait de l'avoir fait. Donc, tu vas comprendre pourquoi. Et c'est vrai que tu comprends très bien en le voyant à quel point c'était difficile d'adapter cette œuvre.
Surtout, il y a une époque dans les années 80 où tu n'avais pas encore les moyens techniques que tu as aujourd'hui, quoi.
Bah, c'est ça. Après, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le film de Lynch. C'est que du coup, c'est des effets pratiques et que moi, je les trouve hyper beaux. Mais oui, en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, voir les deux de manière si rapprochée, ça va être un choc. Parce que c'est sûr qu'en termes d'esthétique, et de modernité, c'est pas du tout la même chose. Mais ouais, moi je trouve que c'est un film qui est hyper bancal, qui est peut-être même un peu chiant, mais qui a beaucoup de charme. Qu'est-ce que tu as pensé du Dune de David Lynch, Marie ?
Bah, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un film qui est très très bancal et un peu chiant, même très chiant par moments. Il y a un vrai problème de rythme. Après, il y a des choses qui sont admirables dedans, principalement Alia, mais ouais, je me suis quand même pas mal emmerdée devant. En fait, j'apprécie d'autant plus l'exploit de Denis Villeneuve après avoir vu le film de Lynch, parce que pour que un réalisateur comme Lynch se casse les dents là-dessus, ça montre d'autant plus le brio de Denis Villeneuve, même si, bon, évidemment, c'est pas la même époque et pas les mêmes moyens techniques, quoi.
C'est marrant, là, t'es très négatif, parce qu'en réécoutant notre enregistrement, toutes les deux devant le visionnage, t'étais hyper enthousiaste devant, en fait.
Bah, en fait, il y avait des trucs marrants et que j'ai bien aimés et qui sont un peu absurdes et tout ça. Et puis, en fait, c'est ce qu'on entend dans l'intro, c'est-à-dire que je suis partie avec un esprit quand même assez positif, parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as montré de Lynch pour l'instant. Et que j'ai toujours de la tendresse pour des vrais artistes réalisateurs qui se plantent sur des projets aussi ambitieux, parce que justement, ils ont au moins eu l'audace d'essayer, quoi. Pendant le film, j'avais de la tendresse pour le film et j'étais amusée par certains choix ou des choses comme ça, mais quand même, c'était long. Enfin, c'est-à-dire, c'est un ouais. film qui est long et qui est laborieux, quoi, et qui a des vrais, vrais, vrais problèmes de structure. Surtout, c'est ce que je disais dans l'intro, j'étais surprise qu'il fasse tenir une aussi grosse intrigue en un film, et c'est ça le problème, en fait, très clairement.
Est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes ?
60% du film, c'est le Harkonnen qui flotte. ensuite, t'as à peu près 20% où c'est des Harkonnen qui torturent des gens. Et ensuite, j'en suis à 80%, t'as 10% d'intrigue de cour avec l'empereur. Et ensuite, au milieu, t'as 10% de l'histoire d'un mec qui a un messie et qui pousse tout un peuple à faire le djihad.
Franchement, si c'était ça, je pense que ce serait mieux, parce que pour moi, l'intrigue de cour est hyper omniprésente dans le
oui,
film.
Oui, c'est vrai.
Et c'est ça qui est chiant, en fait. C'est vraiment...
Les Harkonnen, ça m'a saoulé au bout d'un moment aussi.
Ouais, mais au moins, il y a un côté plus camp, je trouve, dans les scènes des Harkonnen qui est sympa, et une construction d'un univers plus sombre et plus absurde qui correspond à ce que Lynch fait d'habitude, alors que vraiment, quand il murmure dans les palaces, je trouve que ça fait pas partie des moments les plus réussis du film. C'est même les plus pénibles à regarder, en fait.
En fait, le problème, c'est que moi, ce que j'aime le plus dans le livre et dans les films récents, les deux Dunes récents, c'est les moments d'apprentissage avec les Fremen, c'est enfin tout cet univers-là, et ça, c'est expédié, on sent que ça l'intéressait pas du tout, et ça, c'est mon plus gros problème, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas retrouvé ce que j'avais autant aimé dans le livre et dans les films récents.
Je sais pas si c'est que ça l'intéressait pas, mais par contre, je sais que le montage est le principal fautif dans le résultat final que tu vois, et que David Lynch n'était pas du tout satisfait du montage final, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises de côté. Pas suite à ses propres décisions à lui. Donc, je peux pas du tout savoir, mais je pense que ce qui n'est pas dans le film, c'est pas parce que ça l'intéressait pas forcément, c'est plus parce que vraiment, il y a des choix très étranges qui ont été faits plus en accord avec ce que le studio imaginait qui allait marcher ou pas
D'accord,
en
ouais.
salle. Mais ça donne une œuvre très bancale et avec un très très gros problème de structure, très clairement. Pour moi, ce qui fait le plus grand charme du film, en le voyant maintenant, presque 40 ans plus tard, c'est le look très kitsch, vraiment très très kitsch.
Oui, bah, clairement.
Est-ce que pour toi, c'est positif ou négatif ?
En fait, il y a un côté carton-pâte, mais très beau quand même, et avec beaucoup de créativité derrière, que j'ai beaucoup admiré pendant le film. Et aussi, il y avait un côté Madeleine de Proust, où j'avais l'impression de me replonger dans certaines productions des années 90 ou 80 que je regardais petite. Parfois, qui étaient des productions un peu des téléfilms Disney ou des choses comme ça, hein, on va être honnête. Mais où les trucs un peu fantastiques de cette époque-là, où il y a une créativité assez foisonnante et en même temps un manque de moyens assez évident. Là, je sais pas si c'est une question de manque de moyens, mais il y avait un côté un peu de briques et de broc, tout en étant assez brillant visuellement, que j'ai beaucoup aimé, quoi.
Le tournage a été très compliqué et c'est un film qui avait un assez gros budget. La production était démente, mais en fait, le tournage a duré très longtemps et ils ont dû finir avec assez peu de moyens. Et donc, il y a plein de problèmes, notamment sur les effets spéciaux, qui sont expliqués par ça, par le fait qu'ils n'ont pas pu...
D'accord. Ouais.
Notamment les petits pistolets où tous les Fremen tirent et se mettent à crier pour faire exploser des murs parce qu'en fait, ils ont...
Ah oui.
Ils n'ont pas trouvé de meilleurs moyens, de moyens plus impressionnants de montrer ça à l'écran. C'est un petit peu triste.
Mais... Ouais.
En tout cas, le côté kitsch du film t'a beaucoup fait réagir pendant le visionnage.
Ah, c'est la princesse Irulan. Ah, waouh. Ah ouais. Oh, ah ouais. Ok.
Oh, ouais. Okay.
C'est très la momie, ça. Oui. Enfin, bien avant la momie. Ce qui est marrant, là, c'est qu'on est qu'au générique d'ouverture. Hein.
Ouais, mais déjà, ça a annoncé la couleur. Ouais.
Ça c'est génial. C'est d'un kitsch.
Ça c'est génial. Ça c'est génial.
C'est marrant. Ah, c'est incroyable, tellement c'est marrant.
Mais je pense que le moment le plus kitsch et le plus savoureux, c'est le générique de fin.
Ah, c'est incroyable. Je pensais que c'était un sketch, en fait.
Ça ressemble à un générique de fin de, des séries, bah, des feuilletons, en fait, qu'on regardait
dans, opéra, carrément.
Dans les années 90, où en fait, on voit à chaque fois la photo de l'acteur avec son nom à côté et une musique absolument délicieuse. Je vous laisse écouter ça.
Eh ben... Mmh. Ah, waouh! Ah ouais, alors ça, c'est du générique. Trop bien. Et là, on est vraiment dans les feux de l'amour, quoi.
Ah, c'est incroyable! Disons que même les feux de l'amour n'avaient pas osé.
C'est clair.
Même Melrose Place ou Alerte à Malibu n'avaient pas osé.
Moi, je trouve que c'est une très bonne note pour finir ce film.
Ah, mais c'est absurde, c'est génial.
Bon, il faut parler du casting. Tu as mentionné la présence de Kyle MacLachlan. C'était son premier rôle à Kyle.
Ça se voit. Le pauvre.
Ouais, il n'est pas très, très bon. D'ailleurs, lui-même dit que quand il se revoit dedans, il cringe, qu'il est très mal à l'aise parce qu'il était inexpérimenté et qu'il était très raide. Mais bon, c'est au moins le film qui nous a donné la future collaboration entre Kyle MacLachlan et David Lynch, puisqu'ils ont travaillé ensemble évidemment sur Twin Peaks, mais aussi sur d'autres films, notamment Blue Velvet, et le début d'une grande amitié aussi entre David Lynch et Kyle, qu'il surnomme Kyle.
Ah, comme le chou Kyle.
Ouais.
Ah,
oui, David Lynch appelle Kyle MacLachlan Kyle.
Même s'il n'est pas très bon dans le film, j'ai énormément de tendresse pour lui à cause de Twin Peaks, donc j'étais contente de le voir, quoi.
Il y a une des critiques de l'époque qui a dit que Kyle MacLachlan était un effet spécial à lui tout seul dans le film. C'est vrai qu'il a une présence...
étrange.
En tout cas, tu étais ravie de le retrouver, puisque pour rappel, si vous n'avez pas écouté notre saison sur Twin Peaks, Marie a développé un grand crush sur Kyle MacLachlan et sur le personnage de Cooper.
Oh. Kylo.
Et d'ailleurs, il raconte dans la biographie de Lynch, il parle de ses cheveux qui sont un peu un problème dans Dune. Enfin, il a une masse de cheveux assez impressionnante et ils savent jamais quoi en faire. Et toi, tu dis tout le temps que si ça marche avec Cooper, c'est parce qu'il avait les cheveux gominés.
Ah bah oui, mais c'est pareil dans Showgirl, ça va pas du tout ses cheveux.
Ouais, mais en fait, Kyle MacLachlan lui-même dit que ça a été un problème pendant toute sa carrière et qu'ils ne savent jamais quoi faire avec ses cheveux. Donc, il est très conscient de de cet écueil. Il y a un autre de tes faves qui joue dans ce film.
Ouais, Patrick Stewart, qui est un de mes faves. Enfin, c'est plus Ian McKellen, son meilleur pote, qui est vraiment mon fave. Mais j'aime beaucoup Patrick Stewart, c'est vrai. Il joue Gurney Halleck. Je m'y attendais pas. Mais en même temps, j'aurais dû m'y attendre parce qu'il est dans tous les trucs de science-fiction.
Oui, et en fait, beaucoup du casting connu de Dune, enfin des gens qui étaient connus à l'époque et qui ont un peu essayé d'attirer les gens en salle, c'était ces personnages secondaires, et notamment Patrick Stewart, ou Max von Sydow, qui joue le Dr. Kynes, qui est aussi une des grosses têtes d'affiche.
Qui jouait dans L'Exorciste.
Ouais, et qu'on voit pas énormément en fait dans le film, mais c'est surtout eux qui étaient les acteurs connus de l'époque. Ouais. C'est aussi l'occasion d'une belle réunion avant l'heure, puisque Twin Peaks n'existait pas encore, mais on peut trouver plein de futurs acteurs de Twin Peaks dans Dune, y compris Jack Nance, qui joue Yakin Nefud.
Ouais.
C'est comme ça qu'on dit ?
Sure, je sais pas.
Qui est un des mecs...
des Harkonnen.
Ouais, c'est un des potes des Harkonnen, il fait partie de leur groupe, quoi, leur clique.
Ah bah c'est un Harkonnen, parce qu'il a les cheveux roux et tout.
C'est leur poteau, leur petite caille, quoi.
Voilà.
Ça va, vous arrivez à suivre. Donc Jack Nance, qui dans Twin Peaks jouait le grand, le fameux Pete Martell. Mais là, comme il a pas de moustache dans Dune, t'as mis du temps à le reconnaître.
Et il est plus jeune aussi.
Tu le reconnais ou pas?
Mais oui, mais c'est qui? C'est on dirait le mec de SNL, mais c'est pas lui. C'est qui?
C'est Pete Martell.
Attends, Pete Martell
de Twin Peaks.
Oh, wow. Oh, Pete Martell. Oh oui, there's a fish in the percolator.
Tout est revenu d'un coup.
She's dead, wrapped in plastic.
Ouais, ça t'a donné envie de regarder Twin Peaks à nouveau, évidemment. Jack Nance, qui donc est très présent dans la filmographie de David Lynch, qui était un des meilleurs amis de David Lynch, qui jouait aussi dans le tout premier film de David Lynch, Eraserhead. Et là, c'est vrai que en fait, il y a un petit problème parce que lui et d'autres acteurs, les voir dans Dune,
c'est pas possible.
Ça fonctionne pas du tout parce qu'on les connaît comme des personnages un peu loufoques et attachants et décalés de Twin Peaks. Mais alors, le pompon, c'est quand même Everett McGill qui joue Stilgar et qui donc dans Twin Peaks jouait
Ed. Stilgar, c'est quand même un personnage qui est très important dans Dune, qui est un peu l'initiateur de Paul au Fremen. qui est celui qui croit vraiment en lui. C'est le rôle joué par Javier Bardem dans la nouvelle version, et c'est les mêmes qui circulent à chaque fois où il dit Lisan Al-Gaïb. Et là, donc, il est joué par Ed, de Nadine et Ed. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le Dune de Villeneuve, Javier Bardem ajoute une petite touche comique au personnage de Stilgar. Et peut-être que Everett McGill aurait pu ajouter ça dans Dune, mais en fait, le personnage de Stilgar est très sérieux dans le Dune de Lynch.
Au niveau de l'écriture, il n'y a pas du tout le même jeu au niveau de ce personnage, quoi.
Et encore une fois, il est un petit peu raide. Enfin, on n'arrivait pas du tout à le prendre au sérieux en regardant le film.
Surtout pour moi, enfin genre, je m'attends à ce que à n'importe quelle minute ils disent Nadine.
À un moment, t'as dit, imagine si le ver s'appelait Nadine. Ou peut-être c'est moi qui ai dit ça.
Ah, peut-être. Je... C'est plus une blague à toi, ça.
Pourquoi ? Parce qu'elle est pas drôle.
Non, parce qu'elle est bonne, justement.
Il y a même un petit caméo. Là aussi, tu as mis un petit peu de temps
il est
à
jeune,
identifier.
Hein,
ouais, c'est vrai. C'est vrai que toi, tu connais.
J'ai plus reconnu sa voix qu'autre chose, parce qu'il y avait une partie de son visage est un peu obstruée, j'ai l'impression.
Oui, oui, oui. Et puis en fait, il joue un mec qui donne des instructions dans une tour de contrôle ou je sais plus quoi, qui est du côté des Atreides, il me semble, et il a le visage un peu recouvert de suie.
Oui, c'est ça.
Enfin, c'est assez difficile, mais donc il s'agit évidemment de Dadou Lynch, notre papy à tous. Qui là, effectivement, avait 36 ans. Donc,
peut-être un peu
plus compliqué de le reconnaître, même si c'était pas si longtemps après qu'on l'a vu dans Twin Peaks. Mais c'est vrai qu'il avait pas encore le look. Enfin, dans le film Dune, il a pas le look caractéristique de David Lynch avec les cheveux en l'air.
Ouais, puis c'est surtout que comme je crois qu'il a un casque ou un truc comme ça, donc ses cheveux sont aplatis. Il est, comme tu dis, son visage est partiellement obstrué. Et j'ai reconnu sa voix, en fait, quand tu me l'as dit. Mais je voyais, je me disais, c'est qui? Et puis,
Mais c'est David Lynch.
Le choc.
Choc et stupeur.
Était réel.
Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quelques personnages sur lesquels David Lynch a vraiment poussé le curseur très, 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 très loin. C'est un space opéra et il y a un côté grotesque chez certains personnages, notamment les Harkonnen et les personnages des Mentat, qui ont comme caractéristique d'avoir des sourcils très touffus.
Ouais, vraiment. C'est Emmanuel Chin, mais fois mille, quoi.
Ouais, c'est ça. Et un peu poivre et sel.
Ouais.
Et la bouche toute rouge, un peu comme le Master dans Buffy contre les vampires.
Ouais, et puis même pas rouge en mode j'ai mis un peu de rouge à lèvres, vraiment rouge, comme s'ils avaient écrasé des cerises tout autour de leur bouche. Sauf que c'est du sang.
Oula ! Oh wow ! C'est vrai que tu peux tricoter un pull avec tout ce qu'il y a dans ses sourcils.
C'est clair.
Il faut qu'on parle des problèmes de ce film. Il y en a pas mal. Et je pense que le plus important, c'est clairement le rythme, qui est...
Lunaire. Incompréhensible. Il est très lent, il est très 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 lent.
Méditatif.
Méditatif, oui, c'est le cas.
Saccadé. Apaisant.
Ouais, il y a un problème. C'est comme si le film chantait faux. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un problème vraiment de.
Ouais,
de
ton. On sent que c'est pas voulu, c'est-à-dire que c'est là qu'il y a un ratage.
Ah vraiment. Oui, clairement.
On comprend qu'il y a eu, une couille dans le potage et d'ailleurs.
Quoi ? Quelle expression charmante.
C'est la France. c'est quoi, mon poteau, ma petite caille ? C'est pas ma petite couille, mais on y est presque. On a regardé le film en deux fois. Puisqu'on a commencé à le regarder le soir à 22h, c'était un très mauvais choix, puisque t'arrêtais pas de t'endormir devant. Et ensuite, on a décidé de le reprendre le lendemain matin, parce qu'on a compris que ça n'allait pas être possible autrement.
Je sais qu'il est tard, mais là, vraiment, c'est dur, quoi.
Ouais, non, c'est dur. Je crois que je vais t'endormir après un peu que j'ai
Ça m'étonne pas. Je veux bien me réveiller, mais c'est compliqué face à ce film.
Il y a un autre truc qui était hyper agaçant et qu'on a remarqué assez vite, c'est la voix off.
Quand tu me dis que le problème principal, c'est le montage, et on va en parler, pour moi, vraiment, ça, c'est au niveau de l'écriture, la voix off, et c'est un gros problème.
Ça a été rajouté après, en fait.
Ah, d'accord, bon, tu vas m'expliquer, mais en gros, ce qui se passe quand on regarde le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que je dirais que 80% des paroles prononcées à l'écran ne sont pas des dialogues entre deux personnages, mais sont les pensées des personnages dites en voix off par les personnages eux-mêmes. Il est en train de faire quelque chose et Paul, et on entend la voix de Kyle MacLachlan alors que lui ne bouge pas, qui dit « il faut que j'aille à cet endroit ». Enfin, et c'est déjà, il y a des moments où c'est pas nécessaire. Et il y en a d'autres où ce serait pas mal, en fait, qu'ils échangent avec d'autres êtres humains pour apporter un petit peu de dynamisme. Surtout, au bout d'un moment, ça devient répétitif et un peu lassant, quoi.
Ouais, en fait, c'est pas du tout cinématographique. C'est-à-dire que ça, c'est très littéraire. Voir une ligne de dialogue dans un livre où on comprend ce que le personnage est en train de penser, mais dans un film, en fait, on voit jamais ça. Et effectivement, tout le principe de l'écriture cinématographique, c'est de créer de l'action, de dire « show don't tell », donc montrer, en fait, une action concrète qui illustre l'état d'âme ou la pensée du personnage. Et là, à la la place, on nous met juste leurs pensées en voix off. Ça fonctionne pas du tout. Et ça ralentit énormément le rythme dont on parlait, puisque, comme tu le disais quand on regardait le film, au final, on les voit être plantés dans des couloirs ou marcher pendant qu'il y a la voix off. Donc, on n'a même pas une action qui accompagne ces moments-là. C'est très pauvre comme manière de raconter un film. Et en plus, c'est une manière très maladroite de créer de l'exposition. L'exposition, pour rappel, c'est vraiment l'explication qu'on met généralement au début d'un film ou d'une série pour établir en fait les enjeux. C'est genre « Ah, salut maman !» pour comprendre que le personnage à qui on parle, c'est notre mère, etc. Sauf que là, il y a quasiment que ça.
Parce qu'on l'appellerait jamais maman.
Non, mais parfois, il y a des trucs d'exposition maladroits qu'on critique souvent plus du côté des séries. Où c'est... Mais tu te souviens, l'année dernière, quand tu avais fait ton burn-out et qu'à ce moment-là, j'ai appelé Jackie, notre oncle, et c'est des manières... Ouais. Voilà, très artificiel de rappeler un petit peu ce qu'on n'a pas vu à l'écran. Mais là, le film fait beaucoup ça et on comprend que c'est peut-être une volonté d'expliquer d'une parce que c'est un livre qui est très dense et complexe et que donc ils ont voulu le rendre plus compréhensible pour le grand public, mais ça fonctionne pas du tout.
Ouais, et puis en fait, c'est marrant parce qu'au début, on a la narratrice qui est Irulan et ça, c'est comme dans le livre et ça, je trouve que pour le coup, ça fonctionne assez bien, même s'ils sont un peu trop lourds sur les intrigues de cours, justement.
Mais et le jargon.
Mais du coup, il y a vraiment des problèmes d'explication et je me dis, si j'avais pas lu le livre ou vu les films de Villeneuve, en même temps, j'aurais moins d'objets de comparaison qui montrent à quel point il est défaillant, mais je comprendrais rien.
Je sais pas si on comprendrait pas, moi je me suis posé la question, parce qu'au final, si tu le réduis de manière très binaire, tu comprends que c'est deux maisons en fait qui s'affrontent, mais c'est vrai que comme le film essaye pas du tout de transposer les éléments de jargon les plus compliqués, ou de les expliquer, ou de les simplifier, de les vulgariser, bah en fait pour moi c'est plutôt ça le problème, c'est qu'on a une avalanche de Gom Jabbar et de Bene Gesserit et de, enfin tu vois, Iconen, Atreid, Iconen,
Iconic, ça c'est sûr.
Et en fait ça devient hyper lourd et on a ça et des voix off murmurées en plus,
ouais.
Qui
oui,
du
c'est
coup voilà qui crée un petit côté ASMR qui explique pourquoi tu t'es endormi devant.
Ouais, c'est ça.
Mais ouais, ça fonctionne pas du tout.
Il pourrait utiliser ce film dans un cours sur l'exposition.
Ouais, non, c'est
toutes
incroyable.
Les techniques différentes.
C'est ça. Pour l'instant, il n'y a que des scènes d'exposition, en fait. Ouais. Et à chaque fois, une technique différente.
Je pense que les 15 premières minutes du film, c'est que des scènes d'exposition qui expliquent l'univers, qui expliquent les dynamiques et qui expliquent où on en est.
Ouais, mais pas du tout les enjeux émotionnels, parce que ça aussi, c'est un travail d'exposition que n'importe quelle œuvre est censée faire. C'est qu'on comprenne tout de suite pourquoi on doit s'attacher à telle personne et quel va être un petit peu son trajet, sa trajectoire pendant tout le film. Et là, on est tellement sur les spécificités de l'univers qu'on zappe vraiment toute la dimension émotionnelle du film.
From my dreams.
Oui, bon.
Beautiful.
Ça c'est beau.
No one ever dreamed there were so many.
Pourquoi tu chuchotes?
I am so.
C'est même insultant parce que quand on l'entend là, il dit « Ah, c'est la meuf de mes rêves », alors qu'on l'a vu rêver de Shani plus tôt. Donc ça prend en plus le spectateur pour un con.
Ouais.
Il y a un troisième gros problème. Tous ces problèmes-là sont liés évidemment, mais c'est un problème que tu as mentionné au tout début, qui est la structure narrative et le temps qu'on passe sur différentes parties du livre. C'est un livre qui est énorme et tu avais tes doutes sur la capacité à faire tenir tout ça en un seul film. Et c'est le plus gros problème, c'est qu'en fait, quand on regardait le film, tu étais très inquiète parce que tu te disais « mais on en est encore là, mais on en est encore là, mais on va jamais arriver à la partie la plus importante de l'intrigue alors qu'on est déjà à la moitié du film.
Bah, » c'est-à-dire que la façon dont Villeneuve l'a découpé, c'est plus ou moins la façon dont c'est découpé dans le livre entre le livre 1 et le livre 2 du premier livre. C'est-à-dire que toute la première partie, c'est les Atreides qui quittent leur planète, qui savent que Leto va sûrement se faire tuer, qu'il y a un complot et tout ça, mais qui vont quand même sur Arrakis. Et c'est le complot contre eux. Et après, c'est l'assassinat et la fuite de Paul et sa mère. Et après, le livre 2, on arrive, ils sont dans le désert. Et ça, c'est tout le deuxième film de Villeneuve. Où il a même commencé un peu plus tard. Ouais. Il a fait le duel dans le premier. Mais du coup, tout le livre 2, c'est les Fremen. Et c'est l'apprentissage de Paul des traditions des Fremen. C'est la montée en puissance aussi de sa mère qui va devenir une mère suprême chez eux.
Et la transformation de Paul, qui était un jeune innocent,
qui était brillant et on voyait toutes ses capacités, mais là il devient et puis il se déshumanise en même temps. Il y a tout ce processus qui est hyper intéressant. Il lutte un peu, ça on le voit vraiment dans le film de Villeneuve et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il lutte un peu contre son statut de messie et tout ça. Et après il y a une guerre quand même. Donc tout ça, en fait, tout ce qui est le deuxième film de Villeneuve, Là, c'est réduit en 20 minutes. Mais vraiment, hein, sur un film de 2 heures. Ce qui est quand même assez confondant. Parce que déjà, pour moi, c'est la meilleure partie. Parce que j'aime bien les trucs un peu... Ils sont dans le désert, il apprend à vivre et tout ça. Je trouve ça trop cool, tu vois, les trucs d'apprentissage. Enfin, c'est un peu confondant quand même comme choix.
Bah, c'est là qu'on a les enjeux émotionnels aussi, puisque c'est là qu'on a l'histoire d'amour entre Paul et Shani.
Bah oui.
La transformation de Paul, qui est un personnage qui est très discret, qui manque même de charisme en fait au début, puisqu'il est très très jeune. Et c'est comme ça que l'incarnait Timothée Chalamet dans le premier film. C'est quelqu'un qui est limite un peu plat, qu'on voit pas comme un leader. Et ensuite, il se révèle dans la deuxième partie. Il devient un homme. Il a perdu son père et il y a quelque chose qui s'enclenche chez lui.
D'ailleurs, le premier film de Villeneuve a été taxé de froid, et moi j'avais trouvé ça aussi, mais c'est parce que ça reflète aussi ça, quoi.
Exactement. Pour moi, c'était très conscient de la part du cinéaste et de l'acteur de montrer un Paul qui n'a pas encore les épaules pour gérer ce rôle-là. Et ensuite, dans le 2, on voit que Timothée Chalamet ne l'incarne pas du tout de la même manière et qu'il y a beaucoup plus de maturité dans son jeu. Et là, bon, en plus, Kyle MacLachlan a des petits problèmes de performance, mais...
On dirait qu'il ne peut pas bander, mais...
a des petits problèmes d'interprétation. Mais en plus de ça, c'est tellement condensé, la deuxième partie, qu'au final, c'est juste du piou-piou-piou avec des pistolets laser et une guerre sainte qui arrive très très vite.
Oui, puis même, il rencontre Shani, la minute d'après, il est en train de lui dire qu'il l'aime et qu'il l'aimera toujours.
Ouais.
Il la connaît depuis 3 minutes.
Mais il l'a vue dans ses rêves.
Oui, mais
et
bon.
Il nous a redit ensuite qu'il l'avait vue dans ses rêves. Vrai.
Je suis épatée parce qu'en fait, il va y avoir toute la guerre avec les Harkonnen et tout ça. Il doit aller chez les Freemen, monter sur le verre et tout. Et on est encore là, quoi.
Monter sur le verre, quoi.
T'étais dépitée, vraiment. J'ai inclus que cet extrait-là, mais pendant tout le...
Ah ouais, ça m'a perturbée. Ouais. Enfin, vraiment, j'étais inquiète. J'étais là, en plus c'est vraiment ma partie préférée, j'étais là, quand est-ce que ça arrive?
Bah ouais, et c'est vrai que le film dure 2h15, donc il est plus court que un des deux films de ouais. Villeneuve, et ça se sent vraiment.
Oui, et puis vraiment, il s'est pas concentré sur les bonnes choses.
Alors, c'est pas une question de concentration.
On va défendre David.
Je vais défendre David, mais parce que David Lynch déteste ce film aussi. Donc, on est même toutes les deux plus indulgentes, je pense, avec Dune que David Lynch lui-même. Mais ce qui s'est passé, je vais tout te raconter depuis le début. Déjà, tu le savais, Star Wars était sorti juste avant. Donc, il y avait une énorme attente sur les films de science-fiction à ce moment-là. Et d'ailleurs, on a proposé à David Lynch de réaliser Le Retour du Jedi, juste avant qu'il fasse Dune. Et en fait, il raconte qu'il est allé à un rendez-vous avec George Lucas et que il a commencé à avoir une très grosse migraine et que plus le rendez-vous avançait, plus il avait mal à la tête et que vraiment Star Wars, il s'en tape complètement en fait. Donc il a fini par dire « je peux pas ». Le truc, c'est qu'il avait une énorme pression à l'époque puisqu'il n'avait fait que 2 films auparavant. Eraserhead, qui est un petit film expérimental qui a été applaudi par la critique mais que personne n'a compris. Puis Elephant Man, qui pour le coup est un film beaucoup plus classique, qui a été très apprécié du grand public. Et Elephant Man a permis à Lynch d'être un petit peu plus respecté à Hollywood. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à lui proposer des gros projets parce que c'était un peu le réalisateur en vogue juste après Elephant Man. Donc il dit non à Star Wars en disant « je ressens une énorme pression de le faire, mais je veux pas en fait, ça me correspond pas ».
C'est probablement une bonne chose parce que je pense qu'il aurait été cancel pour toujours.
C'est clair. Et donc finalement, il rencontre Dino De Laurentiis, qui est un producteur très célèbre, qui cherchait déjà depuis longtemps à faire une adaptation de Dune. Dune avait cette réputation de...
D'œuvre inadaptable,
parce qu'avant ça, il y avait eu Rodorowski qui avait essayé de le réaliser. C'est très connu, il y a un documentaire qui est sorti sur le fait que son Dune, à lui, n'a jamais vu le jour. Frank Herbert, l'auteur de Dune, avait écrit un script pour Dino De Laurentiis, mais il était beaucoup trop long, donc ils ne l'ont pas, ils l'ont pas validé. Ridley Scott a aussi été embauché pour réaliser Dune, mais il a lâché l'affaire au bout de 7 mois, parce que ça prenait trop de temps, et il est parti faire Blade Runner. Peut-être que c'était une bonne
choix
aussi, ouais. Voilà. Et donc,
d'ailleurs, Villeneuve qui a repris les deux. Hein.
Exactement. Mm. Et donc Dino De Laurentiis finalement contacte David Lynch parce qu'il avait adoré Elephant Man mais détestait Eraserhead.
Le problème,
le problème c'est que tu peux pas enlever le Eraserhead qui est à l'intérieur de Lynch.
Il avait pas compris.
C'est ça. Et je pense qu'il s'en est rendu compte au moment du tournage. Lynch n'avait jamais entendu parler de Dune quand on lui a proposé. Il croyait, il croyait que c'était June comme le mois de l'année. Il était là mais c'est quoi June? Dino De Laurentiis apparemment sa réputation c'était qu'il était très difficile de lui dire non. Donc David Lynch a sans doute dit qu'il a aussi eu une grosse migraine en le rencontrant, mais que finalement, ça s'est fait. Et ils ont signé un contrat de 3 films, d'une.
Mmh.
Donc, ils n'étaient pas censés en faire qu'un. Tout de suite, avant même d'écrire le script, puisqu'on lui a demandé d'écrire et de réaliser, il y avait des limites, notamment l'exigence que ce soit un film PG.
Donc, ah oui, d'accord. Okay.
Voilà, pour les moins de 13 ans.
Oui, mais ça, après, c'est pas...
Ouais, okay. Mais pour David Lynch, quand on voit sa filmographie, c'est pas trop son délire. Et lui-même dit a posteriori qu'il a vendu son âme, en fait, avec ce film, avant même d'avoir commencé à l'écrire, puisqu'on lui a dit, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça. Et que donc, il n'avait pas la liberté de faire ce qu'il voulait. Il a fait venir ses co-scénaristes d'Elephant Man avec lui, pour essayer d'avoir un truc un peu plus...
mainstream.
Voilà, un peu plus normal. Mais finalement, il les a virés assez vite, parce que ça fonctionnait pas et que ça collait pas à l'idée que Dino De Laurentiis avait. Le tournage commence. Il a dit aux acteurs et aux producteurs, qu'est-ce que vous pensez de faire de la chirurgie esthétique aux acteurs ? À votre avis, ça passe ou pas ? Il voulait creuser un trou dans la joue de l'acteur qui joue Leto pour faire passer un tube pour le moment où il y a la dent qui émet du gaz.
C'est horrible.
On lui a dit non, David, on ne peut pas faire ça. Et donc finalement, ils lui ont scotché un tube sur la joue et ils n'ont fait qu'une seule prise parce que ça a brûlé la joue de l'acteur, qu'il était très énervé. Donc la seule prise qui a été faite, c'est celle que tu vois à l'écran. Le tournage a beaucoup traîné. Dino De Laurentiis a dit lui-même que David Lynch était capable de passer des heures à mettre des points sur un mur. Et que c'était sans doute pour ça qu'il n'avait plus jamais fait de gros films après, puisqu'en fait, c'est vrai qu'il était, David Lynch était passionné par les détails. Sur Eraserhead, en fait, il avait aussi travaillé sur les décors. Enfin, il est vraiment touche à tout. Et donc là, il passait énormément de temps sur des trucs où, en fait, quand tu travailles pour un film de gros studio, tu fais pas ça. Apparemment, un jour, ils étaient dans le désert du Mexique avec 200 figurants en costume en caoutchouc. Il y avait beaucoup de gens qui s'évanouissaient à cause de la chaleur et David Lynch était en train de faire un gros plan sur l'œil de quelqu'un. Et donc là, le producteur lui a dit, David, on peut pas faire ça, en fait. On a des studios, donc ça, ton gros plan, tu pourras le faire après si tu veux. Mais là, les gens sont en train de mourir dans le désert, donc filme le grand décor qu'on a pour toi. Donc, il y a eu plein de problèmes comme ça. Beaucoup de gens tombaient malades, l'eau n'était pas potable. Enfin bref, c'était une galère pas possible. Il y a un des décorateurs qui a démissionné en cours de route parce qu'il n'avait pas été payé et qu'on ne lui avait pas fait de contrat. Donc, c'était un peu la galère. Et ça a continué au moment du montage. David Lynch a fait un premier montage de 5 heures. Et la coupe finale qu'il voulait durait 3 heures. Mais le producteur voulait absolument pas que ça dure 3 heures parce qu'en salle, il a dit il faut qu'on ait le plus de projections possible. Et donc, dans une journée, si tu as un film de 2 heures, tu peux le projeter plus souvent qu'un film de 3 heures. Donc, il faut absolument que ça fasse 2h15 maximum. Donc, le film fait 2h15 et David Lynch a été forcé de faire beaucoup de concessions qu'il regrette vraiment aujourd'hui parce qu'il n'avait pas Final Cut. C'est Dino De Laurentiis qui avait Final Cut. Vas-y, fais ta blague.
Quand tu m'as dit qu'il n'avait pas Final Cut pendant le visionnage, je me suis tout de suite dit le logiciel. Et en fait, ça veut dire qu'il n'avait pas la coupe finale. Quoi.
Oui, voilà, décision en fait, finale sur la coupe. Voilà, c'est une expression qu'on utilise en cinéma pour dire qui est la personne qui est la dernière décisionnaire sur le montage final et qui peut dire non, ça on le garde, ça on l'enlève. Et
Ceci dit, il n'avait pas Final Cut, je pense, non plus le logiciel à l'époque.
Non. Et beaucoup d'auteurs ont Final Cut et exigent d'avoir Final Cut, c'est dans leur contrat, parce que justement, ils ne veulent pas qu'on dénature leur travail. Mais c'est aussi pour ça qu'il existe des director's cut de beaucoup de films. Parce que, en fait, la première version qui est sortie est une cut, donc un montage qu'eux n'approuvaient pas forcément ou qu'ils n'aimaient pas. Et donc, un an ou deux ans plus tard, on a la version plus complète, notamment Ridley Scott, il fait beaucoup ça, qui est généralement plus longue. Dino De Laurentiis a dit lui-même que le film avait été détruit dans la salle de montage. Et David Lynch a dit « c'était horrible, juste horrible ». Ce qu'il a fallu faire à ce film pour qu'il dure 2h15 était un cauchemar. Plein de choses ont été tronquées et des voix off murmurées ont été rajoutées parce que tout le monde pensait que le public ne comprendrait pas l'intrigue. Donc ils ont dû en fait faire les voix off a posteriori. Donc je pense qu'ils ont aussi enlevé beaucoup des moments d'action pour garder ces scènes-là dans lesquelles il se passe un peu rien pour caler les voix off dessus. L'introduction de la princesse Irulane a aussi été rajoutée a posteriori. C'était pas prévu dans le film la base. Oui, c'est pas mal. Et donc voilà, vraiment, les voix off, l'absence totale de transition entre ces deux parties et le fait que la deuxième partie est beaucoup plus courte, tout ça, c'est de la faute du montage. Et David Lynch était totalement dégoûté. Heureusement, ils ont quand même gardé un bon rapport après ce film-là avec De Laurentiis. Et ils avaient fait un deal de 3 films. Mais ça a été un tel échec, le premier, qu'ils ont annulé les 2 suites de Dune. Et donc, Dino De Laurentiis a dit à David Lynch, « Bon, bah, qu'est-ce que t'aimerais faire ensuite, puisqu'on a un contrat ?» Et David Lynch lui a dit qu'il voulait faire Blue Velvet, qui était un projet qui mûrissait depuis très longtemps, qui était beaucoup plus personnel pour le coup. Et il a dit qu'il ne le ferait que s'il avait Final Cut. Et Dino De Laurentiis lui a dit « Ok, si on réduit le budget et le salaire de moitié. » Et David Lynch a dit OK. Et c'est un peu comme ça que la carrière de David Lynch a pris le tournant qu'elle a pris. C'est-à-dire qu'après ça, David Lynch n'a plus fait de projets vraiment mainstream. Son cinéma, il est quand même. Il a tous les marqueurs du cinéma indépendant. Il a Final Cut. Et c'est pour ça qu'il fait des trucs très chelous, comme ce que tu as pu voir dans Twin Peaks The Return. Mais c'est un aspect de sa carrière qu'il a énormément regretté, même si je pense que c'est ça qui a donné en fait ce qu'on a eu par la suite aussi. Personnellement, j'aime beaucoup la musique de ce film. Je sais pas ce que toi t'en as pensé.
Ouais, après j'étais déçue parce que quand j'ai vu qui faisait la musique de ce film, je m'attendais pas à ça.
Wow. Toto a fait la musique.
Ouais.
Wow. Alors ça, est-ce qu'il va y avoir Africa?
Non.
Merde. Waouh, il y a du lourd là.
T'as vu?
Alors là, il faut pas penser que je connais bien Toto.
Oui, c'est ça. En fait, je pense que le problème, c'est que ta seule relation à Toto, c'est Africa. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a encore plus fait rire. C'est, on va l'entendre, ta compréhension de qui est Toto. Ah ouais.
Épaté par Toto. Hein. Il a une gamme, cet homme.
C'est pas un homme, Toto.
C'est un groupe.
Oui, d'accord.
Qu'il est fort ce Toto.
Qu'il est fort. C'est vrai que là, en entendant la musique, elle est très très bien.
Ouais, moi je la trouve vraiment bien. Elle est épique. Ouais. Et en même temps, en ayant ce côté très marqué des années 80.
Ouais, mais je trouve ça dommage quand même qu'il chante pas.
C'est vrai que pour le générique de fin, avec les images, si on avait eu un petit Africa, bah ouais, ça aurait été pas mal. Surtout qu'il y a du désert dans le film.
C'est ça.
Ça marche totalement. Ouais. Faut dire aussi que la musique donc, a été composée par Toto et produite par Brian Eno, qui est quand même un immense producteur et musicien britannique. Qu'est-ce que tu penses des Harkonnen? Parce que moi, je trouve que c'est un des aspects, ouais, c'est un des aspects les plus réussis parce que c'est un des aspects les plus lynchiens aussi, je trouve, du film.
Oui, alors oui, mais Burke.
Ils sont très dégoûtants.
Ouais.
Personnellement, je trouve que le baron Harkonnen de Lynch m'a fait plus forte impression la première fois que je l'ai vu que le baron Harkonnen de Villeneuve.
Ouais, mais moi aussi, mais non. Juste les problèmes cutanés de cet homme vont beaucoup trop loin pour moi. C'était désagréable à voir. Mais c'est marrant, il y a plein de trucs dans tous les passages avec les Harkonnen qui me rappelaient un peu Twin Peaks The Return. Pas forcément ces problèmes cutanés, mais il y avait un côté un peu steampunk dedans qui me rappelait au niveau de l'esthétique les moments les plus sombres de Twin Peaks The Return. Enfin, les moments les plus inconfortables, tu vois.
Et il faut savoir que David Lynch est assez fasciné par les déjections corporelles et les productions corporelles en tout genre.
Les fluides,
voilà, corporels. Et là, on le sent très bien, puisque effectivement, le baron Harkonnen a la peau recouverte de pustules qui...
Ah, luisantes, ouais, dégueulasse.
Dégouline de pus en permanence.
Oh, c'est glauque de ouf.
Il y a quand même une scène où le baron crache sur le visage de Lady Jessica.
Ah, j'avais oublié ça.
C'est vraiment dégueu. Just some
spittle in your face. Oh. Était-ce bien nécessaire?
Et en plus, le travail sur le son nous fait bien comprendre tout ce qui se passe dans sa peau. C'est un truc qu'il y avait aussi dans Eraserhead, que tu as vu dans Twin Peaks. Il aime bien le vomi, tout ça. Il y a un côté un peu cracra et gore chez David Lynch que j'aime beaucoup, qui a un côté un peu gamin, en fait, où tu sens que ça le fait marrer. Un côté un peu public à caproute. Et là, moi, c'est vrai que la première fois que j'ai vu le Dune de David Lynch, c'était avant de voir le Dune de Villeneuve et ça m'avait complètement dégoûtée, mais du coup, ça m'avait fait une impression très forte. Et quand j'ai vu celui qui est joué par Stellan Skarsgård dans celui de Villeneuve, je trouvais qu'il était trop propre.
C'est bien, moi j'aime bien.
Ouais.
C'est la grosse différence aussi. Enfin, il y a énormément de différences avec celui de Villeneuve, mais il est beaucoup plus propre et soyeux, comme film en général.
Ouais, alors soyeux, je sais pas. Dans mais il y a un côté chirurgical,
voilà,
en fait.
Et j'aime bien ça. Oui. C'est froid, c'est propre et c'est chirurgical, comme
ça. Ouais. Et même dans les décors. C'est-à-dire que c'est des décors futuristes qui sont extrêmement épurés, qui sont brutalistes. Parfois, quand on voit les Sardaukar, par exemple, il y a un côté très sombre, très brutaliste.
Non, puis même les scènes des Harkonnen, là, dans le deuxième, en noir et blanc, et tout ça, il y a un côté, c'est comme tu dis, c'est épuré, quoi. Et donc, ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça me satisfait.
Ouais, alors que David Lynch, en fait...
C'est bordélique.
C'est bordélique, mais moi, c'est ça que j'aime, c'est que je trouve ça foisonnant. En fait, on va en reparler, mais j'adore les décors du film. Je trouve que c'est la plus grande réussite du film, qu'ils sont magnifiques, que ça se voit que c'est des décors pratiques aussi, qu'il n'y a pas d'image de synthèse, que tout ça a été fabriqué. Et la raison pour laquelle ça ressemble à ça, au-delà du fait que David Lynch est un grand fou et que c'est un artiste plasticien aussi, c'est pas qu'un réalisateur, il est peintre, il est sculpteur, et ça se sent dans tout ce qu'il fait. Mais là, c'est aussi parce qu'il a beaucoup rendu visite à la famille de Laurentis pendant le projet, en Italie. Et en fait, il est allé à Venise et il a été complètement subjugué par l'architecture vénitienne et il voulait
intégrer ça
voilà, dans le film. Et d'ailleurs, De Laurentiis lui avait donné un bouquin sur l'architecture italienne au tout début de leur rencontre. Et donc, c'était dans son brief pour les décors du film. Il voulait absolument qu'il y ait ce côté voilà, avec plein de bois sombres, d'ornements en or. Et c'est vrai que c'est absolument somptueux, mais rien à voir avec celui de Villeneuve. Très différent comme ton.
Ah, c'est bien le décor, c'est vraiment cool.
Ouais.
Le problème, c'est toujours.
Et oui,
triste mais vrai. Qu'est-ce que t'as pensé des costumes ?
Ils sont bien aussi dans mon souvenir parce qu'il y a les Bene Gesserit, par exemple, elles sont vachement bien. Et j'aimais bien qu'il lui ait rasé la tête et tout ça.
Ouais. Jessica aussi, elle a des très belles robes. Et moi, j'adore le costume de Sting. Le costume bleu en caoutchouc, là, je le trouve super bien.
Ah ouais, je m'en souviens plus, je t'avoue. Ouais. Mais moi, Sting, je me souviens plus de la scène où il est à moitié à poil.
Oui.
Mais,
il a un petit slip en caoutchouc.
Ouais.
Ouais, non, pour moi, c'est un des looks les plus mémorables du film. Et d'ailleurs, l'espèce de petit truc planté dans le nez qu'ils ont pour leur combinaison, là, c'est un truc qu'on retrouve chez Villeneuve.
C'est dans le livre aussi. Hein.
Oui, mais le design est très similaire, je trouve. Les effets spéciaux aussi sont très kitsch. On l'a dit, il y a eu à la fois les limitations liées à l'époque et les limitations liées au budget et au temps, parce que ça rend pas toujours très bien.
Non. Après, ça fait partie du charme. Ouais. En fait, honnêtement, c'est ça le truc, hein, parce que si tu regardes les Star Wars, on va me tuer en entendant ça, mais il y a des effets spéciaux qui rendent pas bien du tout aujourd'hui. Hein. Mais c'est très bien écrit, c'est hyper bien monté, il y a un rythme de fou et il y a un univers qui est foisonnant et tout ça. Là, si ça avait été bien au niveau de la structure et de l'écriture et si ça avait rendu bien sur tout le reste, en fait, les effets spéciaux, tu passes complètement, ça fait partie du charme presque.
Ouais, bah ça nous a beaucoup amusé en regardant le film, et c'est vrai qu'en le voyant aujourd'hui, ouais, moi je trouve que ça fait totalement partie du charme parce que ça rappelle, comme tu le disais, des films qu'on a regardés il y a très longtemps ou de cette époque-là, quand tu regardes Princess Bride,
oui, c'est ça.
Les rats géants, tout ça, bah en fait, oui, c'est totalement carton-pâte, mais c'est hyper charmant.
On dirait un morceau de cheddar, on dirait un Cheez-It, c'est qu'il a mis au-dessus d'une maquette.
Le Cheez-It, c'est marrant, c'est en fait il a des maquettes à un moment et quand il fait voler des trucs, tu sens vraiment qu'il a pris genre un gâteau d'apéro au bout d'un fil et qu'il a filmé ça quoi.
Même quand le baron Harkonnen est en train de s'envoler, on peut voir les fils en fait. Enfin c'est, on voit totalement l'artifice, mais moi je trouve ça tellement choupi. L'effet spécial, pour moi, le plus marquant et celui sur lequel j'attendais le plus ta réaction, c'est ce qu'on voit au tout début quand ils sont en séance d'entraînement avec Paul. Et c'est le bouclier.
Ah, c'est absurde. Mais c'est génial, mais c'est absurde.
Est-ce que tu te souviens un peu, enfin, tu saurais décrire...
Oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'on dirait un élément de jeu vidéo des années 80 qui s'insère d'un coup dans un film et dans une scène de film assez normale parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'effets spéciaux. Le principe, c'est des boucliers qui les protègent en fait des attaques. Et là, c'est comme si en fait, ils se transforment en sorte de cube transparent bleu. Enfin, c'est très très étrange la superposition justement entre cet effet spécial qui a l'air totalement désuet et une scène qui à ce moment-là pourrait ne pas avoir vieilli du tout parce que c'est une scène normale quoi. Il y a pas d'effets spéciaux.
Moi, j'adore. Je trouve ça tellement unique.
Ah, c'est unique, c'est sûr.
Mais en fait, oui, c'est un champ magnétique qui les entoure. Mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude maintenant. On imaginerait quelque chose de plus fluide en fait.
Oui.
Et là, c'est très géométrique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'habitude, les champs magnétiques, tu les vois un peu comme des trucs presque transparents où t'as peut-être une ondulation dans l'air ou des choses comme ça, ou peut-être une électricité dans l'air. Dans mon souvenir, chez Villeneuve, c'est plus ça. Là, tu peux pas le louper.
Ouais, on dirait un effet paint.
Ah oui,
tu sais, quand t'as l'outil rectangle sur paint,
c'est ça.
On dirait qu'ils ont dessiné un rectangle sur les acteurs et qu'ensuite ils l'ont fait bouger. C'est sans doute ça qu'ils ont fait. Hein.
What? Mais que se passe-t-il là? Wow, c'est incroyable ça. Ah non, c'est génial.
Moi je trouve. Hein.
Ah mais c'est incroyable. Il fallait oser en fait.
Ouais.
Oh, ah c'est... Ah c'est dément.
Il faut quand même préciser que sur le film, le chef décorateur, c'était Anthony Masters qui a fait 2001 Odyssée de l'espace. Et l'artiste responsable des effets spéciaux, c'était Carlo Rambaldi. Non pas le personnage d'Alias, yes. Voilà, mais qui a bossé sur Alien et sur E.T. Donc c'est quand même du gros pédigré. Ouais. J'ai gardé le meilleur pour la fin.
Oh, la meilleure.
Ton personnage préféré.
Alors ça, c'est incroyable par contre. Et ça, il y a de l'audace. Parce qu'en fait, dans les livres, moi, dans mon souvenir... C'est pas du tout comme ça que ça se passe chez Villeneuve, mais dans mon souvenir, Dame Jessica, qui est la mère de Paul, on apprend justement au moment de leur fuite vers le désert qu'elle est enceinte. Et en fait, elle va prendre une sorte de potion à un moment, une sorte d'eau de vie, je sais pas trop quoi là, qui lui fait voir tout et qui la fait devenir mère suprême. Mais cette, elle est enceinte, donc ça impacte son bébé, qui est à ce moment-là un fœtus. Et en fait, moi, dans mon souvenir, corrigez-moi si je me trompe, les gens qui nous écoutent, dans le livre, le bébé naît. Et elle est méga creepy. C'est-à-dire que c'est un bébé ou une petite fille, mais qui a la connaissance de tout l'univers, quoi. Et Villeneuve a évité ce challenge en la gardant sous forme de fœtus.
Qui communique avec Jessica par la pensée.
Exactement. Et même avec parfois Paul, j'ai l'impression, par la pensée. Mais du coup, il n'y a pas le côté... En fait, moi, je pense qu'il voulait éviter une renaissance. Parce que les bébés un peu modifiés par les effets spéciaux et qui sont censés avoir des facultés magiques ou des choses comme ça, ça peut vite devenir cringe de ouf.
Oui, bah surtout les bébés qui grandissent très vite, puisque Renesmee, c'est un personnage dans Twilight. Donc, on vous redirige vers nos épisodes amis spécial Twilight. C'est un bébé qui naît, mais qui devient adolescente et jeune femme, genre dans la semaine qui suit.
Oui, parce qu'elle est moitié des vampires, moitié humaine.
Voilà, et on a un personnage qui, lui, est un adulte, qui tombe amoureux du personnage de Renesmee alors qu'il est encore bébé.
Oui, alors ça, c'est un autre délire.
Voilà, c'est très bizarre.
Mais déjà, le look de Renesmee, en fait, vu qu'elle a une sorte de croissance exponentielle, est très étrange. Ouais. Et parce qu'en plus, c'est censé être un enfant absolument magnifique et qui a une aura un peu magique. Donc, il y a des effets spéciaux autour d'elle. C'est vraiment, c'est le truc qui a été le plus moqué dans Twilight et à juste titre. Et là, en fait, Villeneuve, on sent qu'il a évité ça, mais là, David, il y est allé. Et il y est allé franco, et c'est une des meilleures choses que j'ai jamais vues. Honnêtement, c'est brillant, c'est magnifique.
Bah, on se souviendra de ta réaction face à l'exorciste. C'est vrai que t'aimes bien les petites filles qui sont un petit peu subversives, ouais. Qui disent des choses qu'elles sont pas censées dire. Et là, c'est totalement ce que fait le personnage d'Alia.
Oui, puis en plus, elle a une tête chelou. Elle est toute pâle avec ses yeux bleus électriques, là, parce qu'à cause de l'épice. Comme elle fait partie des Bene Gesserit, elle est voilée, en fait. Elle a un voile noir tout autour, donc on voit que sa tête, là, comme ça, qui est encadrée. Et elle parle avec une toute petite voix, mais elle dit des choses d'adulte. Et donc, c'est très marrant.
Oui, elle est très menaçante, en plus. Mmh.
I have a messenger from Moadis.
J'adore.
Poor Emperor. I'm afraid my brother won't be very pleased with you.
Ah, ça, c'est génial.
Caleb is trying. She's in a
botany
shop.
Ça, c'est génial.
Get out of my mind!
Not until you tell them both.
Ah, ça c'est génial. Une reine.
Ouais.
Parce que c'est elle qui tue le baron.
Oui.
Dans ce film-là.
Ouais, elle est très menaçante, elle est très très marrante avec sa petite voix en plus, c'est vraiment génial quoi. Mais en même temps, je pense que Villeneuve a pris la bonne décision, hein, parce que justement, dans le cadre de son film, qui est beaucoup plus épuré et beaucoup plus... et qui a beaucoup moins de camp, ça aurait été très étrange d'avoir d'un coup un personnage comme ça, mais dans le cadre du film de Lynch, c'est parfait.
Ouais, ça marche très très bien.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
C'est nul!
Je vais revenir sur les critiques qui ont été faites à la sortie. Elles n'étaient pas très bonnes, tu t'en doutes. C'est un petit peu une thématique récurrente dans ce podcast. Le film a été détruit par la critique. Time Magazine a dit que c'était aussi difficile qu'un examen de fin d'année. Le New York Post a dit que c'était diaboliquement mauvais. Le New York Times, Janet Maslin, a écrit « Plusieurs personnages de Dune sont devins, ce qui les met dans la position privilégiée de pouvoir au moins comprendre ce qui se passe dans le film. » L'intrigue de Dune est dangereusement chargée, comme tout le reste du film. Sa débauche de marbre, de mosaïque, de lambris, de cuir et de dorure serait plus appropriée dans les bureaux de mania d'Hollywood que sur des planètes reculées. Mais l'excès n'est pas que narratif ou décoratif. Même le méchant, une créature volante et couverte de pustules, a plus de lésions faciales que nécessaire. Là, moi, je suis pas d'accord avec elle, parce que je trouve que l'opulence... mais pour moi, l'opulence, c'est un des plus gros atouts du film. Et elle s'est beaucoup focalisée là-dessus.
Moi, je suis d'accord sur les lésions faciales.
Et à la fin, elle dit quand même, il y a une bataille de vers sympa à la fin. Mm. Des vers qui, d'ailleurs, ont un design très similaire à ceux de Villeneuve.
Mais oui, oui.
Même si ceux de Villeneuve ressemblent plus à un trou de balle et ceux de Lynch ressemblent plus à des pénis.
Oui, tout à fait. Après, il faudrait que je relise la description dans le livre parce que c'est peut-être aussi basé là-dessus, quoi. Enfin...
Roger Ebert et Gene Siskel, qui avaient donc une émission de critique ensemble, l'ont nommé pire film de l'année.
Oh.
Ouais. Et Roger Ebert, dans sa critique à lui, il a mis une étoile. Il a écrit « Ce film est un vrai bazar, une excursion incompréhensible, laide, non structurée et vaine dans le royaume trouble d'un des scénarios les plus confondants de tous les temps. Même la couleur ne va pas, tout semble être vu à travers une sorte de filtre jaune poussiéreux, comme si le film avait été laissé au soleil trop longtemps. »
Je suis pas d'accord avec lui sur le visuel, mais sur le scénario par contre, oui.
Ouais, en fait, ça m'a vraiment surprise en lisant les critiques de l'époque. Il y en a beaucoup qui ont critiqué le visuel, alors que moi, je pense qu'aujourd'hui, après avoir beaucoup consommé d'œuvres de science-fiction au cinéma, il y a quelque chose qui était vraiment unique dans celle de Lynch, par rapport à justement ce qu'on voit de très épuré, de très droit, géométrique, dans plein d'autres films de science-fiction. Lui, il n'a pas pris ce parti-là, et je trouve ça bien.
Oui, et après, je pense aussi que notre perception esthétique du film aujourd'hui est influencée aussi par le côté vintage, c'est-à-dire que c'est une vision ancienne du futur. Mmh. Et du coup, il y a un côté très années 80 qui est aussi plaisant pour nous et qu'il n'était peut-être pas, en fait, pour les gens de l'époque, enfin, ils étaient peut-être beaucoup moins charmés, quoi.
Ouais, et des effets pratiques et des décors en dur qui, maintenant, en fait, sont de plus en plus rares au cinéma, oui. Alors que c'était beaucoup plus répandu à ce moment-là. Et puis, il y avait une telle attente, en fait, autour du film, parce que c'était la première vraie adaptation de Dune, que forcément, je pense que plein de gens étaient très déçus. Alors que c'est ça qui est marrant avec l'adaptation de Villeneuve, c'est que lui, il arrive avec cette réputation de film inadaptable et avec un énorme bide qui a été fait par David Lynch. Et donc, lui, c'est d'autant plus remarquable quand on voit ce qu'il a fait, parce qu'on a un élément de comparaison. Il y en a certains qui ont été quand même un petit peu moins durs. Il n'y a pas que des critiques négatives. Et il y a notamment le Hollywood Reporter qui a dit que c'était un film d'une beauté presque visionnaire. Et il prône la qualité audacieusement abstraite des images de Lynch et sa préoccupation autour des textures. Il dit « on ne regarde pas ce film, on peut presque le toucher
».
Et ouais, je trouve que c'est vrai que c'est un film très tactile et bravo à eux parce qu'effectivement, c'était une des rares publications à vraiment faire l'éloge des décors. Le plus grand critique du film, c'est quand même David Lynch. On va l'entendre.
I'm sort of proud of everything except Dune.
Le pauvre.
Il est fier de tout ce qu'il a fait dans sa vie, sauf Dune. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup, beaucoup parlé de ses regrets par rapport à ce film qu'il déteste. Il a été très heurté, en fait, vraiment par l'absence de liberté créative. Et c'est vrai, quand on voit le reste de sa filmographie, on ne comprend pas comment quelqu'un comme ça puisse se laisser imposer, en fait, des choix d'un grand studio. Il avait tellement plus envie d'y être associé après la sortie du film. Déjà, il dit qu'il a fait une espèce de blackout pendant l'avant-première. C'est comme s'il n'avait pas vu le film. Et un peu plus tard, le studio a voulu sortir une version légèrement remontée pour la télé. Et David Lynch a demandé à ce qu'on enlève son nom et à ce qu'il soit renommé Alan Smithy. Parce qu'il ne voulait vraiment pas que son nom soit sur cette version. Dans ses mémoires aussi, il raconte que quand il est rentré chez lui, ça a duré 3 ans et demi quand même. Donc ça a été extrêmement long et douloureux pour lui. Et quand il est rentré chez lui et qu'il a retrouvé sa femme, il lui a dit « je ne veux pas parler de Dune ». Et ils n'en ont jamais parlé. Frank Herbert, par contre, l'auteur de Dune, a beaucoup aimé le film.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, il a dit qu'il y retrouvait son écriture et que c'était un régal visuel. Et Kyle MacLachlan dit que c'est un chef-d'œuvre imparfait. Donc, ouais. Quand même, il a... Voilà.
Je reconnais bien sa générosité.
Ouais. Mais c'est vrai que là, c'était son premier rôle en plus. Donc, je pense que t'en gardes toujours un bon souvenir. Et il le dit lui-même. Il dit qu'en fait, lui, il avait 20 ans. Donc, même toutes les difficultés qu'il y a eu sur le tournage, voilà, il s'en rendait même pas compte. Lui, était juste content d'être là. Lynch a tellement été marqué par cette expérience que dans une interview au Cahier du cinéma qu'il a donnée en été 2023, on lui a demandé « Est-ce que vous avez vu le Dune de Denis Villeneuve ?» Et il a répondu « Je ne le regarderai jamais et je ne veux même pas que vous m'en parliez jamais. » Donc vraiment, ne parlez surtout, surtout pas de Dune à David Lynch. Est-ce que ça a changé ta perception de David Lynch, puisque du coup, c'est que la deuxième œuvre que tu découvres de lui après Twin Peaks ?
Non, ça n'a pas changé ma perception.
Ça t'a pas dégoûté de...
Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je suis pas dégoûtable de David Lynch. En vrai, j'ai envie de découvrir ses autres films. C'est que je me dis juste qu'il faut pas que je le fasse parce que c'est peut-être potentiellement une nouvelle saison d'Ami.
C'est vrai.
Mais,
Votez.
Mais non, non, moi je l'aime beaucoup. J'ai énormément d'affection pour David Lynch et même à travers ce film aussi. Mm. Je vois à quel point il lutte dedans.
Bah oui, moi aussi.
Et je vois ses poussées créatives aussi.
Et quand on entend en fait ce qu'il dit du film, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui font des films ratés mais qui vont les défendre, ou tu vois par exemple Paul Verhoeven qui est ambivalent sur la réception de Showgirls, David Lynch c'est le premier à dire que Dune c'est de la merde.
Ouais.
Donc ça le rend d'autant plus charmant. Petit point sur le casting viteuf. Freddie Jones qui joue le Mentat des Atreides, donc avec les gros sourcils, tout ça. Pas celui qui est tout maigrichon, ouais, non, mais l'autre. Vois. C'est le père de Toby Jones.
Ah d'accord, ok. Ah bah il lui ressemble.
Ouais.
Makes sense.
Okay. Totalement. Et il a aussi joué dans Sailor et Lula et Elephant Man de David Lynch. David Lynch vraiment adore s'entourer toujours des mêmes personnes. Dean Stockwell qui joue Yue. Tu te demandais où tu l'avais vu. Il joue numéro 1 dans Battlestar Galactica.
Okay.
Il joue le père John Cavill, qui est genre un peu une figure religieuse, et c'est le droïde numéro 1, enfin tu vois, le droïde originel, un
truc
comme ça.
Ah oui, mais il apparaît plus tard du coup dans
les films. Oui, c'est ça. Ouais. Linda Hunt, qui joue la Shadout Mapes.
Ah oui, elle, je la connais, mais je sais pas d'où.
Elle a joué un des rôles principaux dans NCIS. Elle jouait une des chefs.
Oui, oui, d'accord, ok, ok.
Et la princesse Irulan, c'est Virginia Madsen, qui était assez jeune à l'époque, c'était un de ses premiers rôles, et depuis, elle a joué dans pas mal de trucs, mais notamment le film Sideways, pour lequel elle a été nommée à l'Oscar du meilleur rôle secondaire.
Sean Young, celle qui joue Shani, elle jouait l'androïde d'Harrison Ford dans Blade Runner.
Oui, c'est vrai, ouais. J'ai aussi une petite anecdote sur Sting et sa participation à ce film,
parce
qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et c'est vrai que c'est un truc qui est très moqué aujourd'hui, où les gens disent « Oh non, mais Dune avec Sting dedans, ça n'a aucun sens ». Mais moi, je trouve pas mal dans le film. Enfin,
non, il est assez bon. Je pensais que je m'attendais à un truc horrible, parce que justement, j'avais vu les blagues dessus. Bon, c'est pas David Bowie.
Non.
Et ça aurait été beaucoup mieux David Bowie qui est roux naturel. Enfin, désolé, mais...
Sting a accepté de jouer dans le film parce que lui, il était fan d'Eraserhead, de David Lynch. En fait, il est un peu perchos, Sting. Il dit qu'il a été très surpris par sa rencontre avec David Lynch, qui s'attendait à ce qu'il soit un peu comme le personnage principal d'Eraserhead, qui est pourtant totalement basé sur Lynch, mais qui est beaucoup plus perché. Et en fait, il dit « Quand je l'ai rencontré, pourtant, il était très normal et il disait des choses comme « Pitch chicken ». Et il dit lui-même qu'il ne s'est jamais considéré comme un acteur, mais qu'il avait un été de libre et qu'il s'est retrouvé à le passer au Mexique avec un maillot de bain en caoutchouc.
Bon, il était très content de l'expérience. Il est bien dans le film.
Ouais, moi je le trouve bien parce qu'il a un côté... En fait, il est hyper souriant et ça ajoute encore plus de menaces. Je trouve au Harkonnen, ils sont tous en train de rire tout le temps. C'est un peu le cirque, en fait, les Harkonnen de David Lynch, mais avec quelque chose d'extrêmement sombre et macabre.
Cauchemardesque.
Ouais, ils boivent le sang de leurs victimes à même la poitrine. Enfin, il y a un truc qui est très organique, en fait, très dégueu. Et ils font ça avec tellement de jubilation que c'est d'autant plus dégoûtant. Et je trouve que Sting le fait très bien parce qu'il a l'air trop heureux d'être là et d'être un tueur sanguinaire. Navet ou chef-d'œuvre ?
Navet ou chef-d'œuvre ? Navet ou chef-d'œuvre ?
Naouche ou Chna ? C'est notre tout dernier Naouche. Navet ou chef-d'œuvre ? Et en fait, je te poserai bien la question, mais tu as déjà tranché à la fin de ce film.
Un chef-d'œuvre.
Tu vois ?
Un chef-d'œuvre. Même pour la petite, un chef-d'œuvre.
Oui, voilà. Pour l'audace derrière Alia, un chef-d'œuvre, mais clairement un film très raté.
Ouais, mais je suis totalement d'accord avec Kyle MacLachlan. Je pense que c'est un chef-d'œuvre imparfait parce que pour moi, ouais, c'est quand même très beau et je pense qu'on ne peut pas dire ça de beaucoup de films qu'on a vus cette saison
non,
en termes de visuel.
Non, puis même, il y a peu de films qui avaient une telle vision derrière. Quoi.
Ouais, c'est ça. C'est très audacieux et c'est juste dommage de savoir que le film a été totalement charcuté. Raffaella de Laurentiis, la productrice, a dit « Non mais moi j'ai vu hein, la coupe plus longue de David Lynch de 5 heures, c'était pas bien non plus. Donc arrêtez de dire que c'est parce qu'il y a eu le montage et tout ça. » Mais au moins ça aurait peut-être été un peu plus cohérent en termes de structure. Ouais. Après je pense que David Lynch, clairement c'est quelqu'un qui n'est pas fan de narration linéaire, on le sait un petit peu.
Ouais, puis sur une histoire comme ça c'est compliqué quand même.
Ouais voilà, c'est pas quelqu'un qui justement est dans l'exposition. C'est quelqu'un qui est dans l'absence d'exposition, qui fait beaucoup d'ellipses, qui laisse beaucoup de trous pour que nous on puisse projeter plein de choses et donc
il a fait d'autres adaptations.
Elephant Man c'est une adaptation. Sailor et Lula, je me demande si c'est pas une adaptation aussi.
Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que là, il adapte un livre qui est donc déjà écrit, mais qui a aussi un univers assez foisonnant, avec des codes déjà très établis, une narration linéaire qu'il doit respecter, quoi. Mmh. Donc c'est tellement antinomique pour lui que je comprends que ça le bloque un peu.
Ouais, en même temps, on comprend très bien ce qui a pu l'attirer dans le projet, c'est la construction de l'univers, parce qu'on voit que c'est quelque chose qu'il adore faire, et on sait que, bah, par exemple, dans Twin Peaks, toute la construction de l'univers et la mythologie autour, c'est un des aspects les plus plaisants de la série. Et dans tous ses films, il y a en fait il y a un Lynchverse.
Son univers.
Exactement. Et là, moi, je trouve que ça marche très bien sur les décors, les costumes, qui s'est approprié justement quelque chose qui était déjà sans doute un peu chéri par les fans du livre. Et donc ça, je trouve ça admirable. Mais c'est aussi quelqu'un, oui, qui fait un cinéma qui est onirique, qui n'est pas dans la surexplication. Et donc, quand on a une mythologie qui est quand même dense et pas facile à suivre, il faut quelqu'un qui arrive à faire un peu des fiches Bristol de manière plaisante pour le spectateur. Villeneuve, il s'en sort très bien parce qu'il fait aussi beaucoup d'ellipses, mais il a gardé vraiment la moelle en fait, de ce qui fait la substance première du livre.
Oui, et puis en fait, Villeneuve, c'est un fan du livre à la base.
Oui, il ne pense pas que c'est June.
Voilà, exactement. Je pense que ça compte aussi.
Sur le 4 sommets.
Bon, c'est quand même un 5.
Quoi?
Mais oui, désolé. Mais Anaïs, mais ce film a d'énormes défauts.
Mais attends, t'as mis Un monde meilleur, c'était 4?
Non, Un monde meilleur, je l'ai mis au moins à 8 ou un truc comme ça, non? Ah bon? Ah bon, alors un 2.
Ah ouais,
je suis pas cohérente sur le 4 sommets. Mais non, mais bon.
Pour moi, c'est même pas sur le 4 sommets.
Si, si, vrai. C'est sur le 4 sommets. C'est vraiment sur le 4 sommets. Tu te fous de moi ou quoi? C'est sur le 4 sommets, mais de
certes,
façon.
Certes, on s'est endormis toutes les deux devant. Mais.
Non, mais de façon réjouissante. Mais c'est sur le 4 sommets.
Oui. Non, pour moi, c'est le problème, c'est que c'est chiant. Et ça, je reconnais que c'est comme 4. C'est-à-dire que 4, on n'en pouvait plus. On faisait que regarder l'heure. Et sur le Dune de Lynch, t'as un peu ce truc aussi.
Non,
où tu
c'est
fais
chiant
de dire quand est-ce que ça se termine.
Non, et puis c'est un peu nul quand même.
Moi, je trouve que c'est chiant, mais je trouve pas que ce soit nul.
D'accord.
Mais bon, je suis une Lynchouse, donc voilà. Tu dois lister 3 qualités.
Alia, les décors et la musique. Une bilan, calmement, se remémore en chaque
instant. Comme c'est notre dernier épisode de la saison, il faut quand même qu'on fasse un petit bilan. C'est quoi le pire film que tu as vu pendant cette saison, Navet au chef-d'œuvre?
De loin, The Last Face. C'est-à-dire que c'est nul et c'est offensant.
Il n'y a pas de débat possible.
Ah non, même 4, c'est charmant en comparaison, en fait.
Je pense que 4, au moins, ça a donné l'occasion de rire beaucoup à l'enregistrement.
Non, puis même 4, il y a un côté vraiment... on sent toute la bonne intention derrière le film.
Oui,
le résultat est pourri, mais The Last Face, c'est vraiment le pire truc. Enfin, il n'y a rien qui va.
Ouais.
Toi, c'est quoi le pire film?
Oui, bah, je pense que c'est The Last Face aussi. Enfin, si on devait avoir un critère objectif, entre guillemets... Effectivement, c'est pas un bon film. Et en plus, il est très offensant d'un point de vue politique. Donc, ouais, je pense que c'est celui-là. Même si Cats est quand même pas loin derrière et qu'il faut pas oublier Burlesque dans l'histoire.
Ouais,
Burlesque,
ça...
c'était quand même vraiment pas bien. Et je pense que
non,
surtout,
et
c'était...
Last Christmas aussi.
Et Last Christmas, ouais, putain. Ouais, c'est vrai que Last Christmas...
c'est rude.
C'est, ouais, c'est très
pire
rude
que
aussi.
Burlesque, il y a quand même des qualités.
Oui. Oh, oh, oh. Ouais, ouais, Last Christmas, c'est vrai que c'était atrocissime.
Ouais. Enfin, vraiment, Last Christmas, c'est nul et inintéressant. Enfin,
ouais.
C'est...
Pff.
Non, mais au
je
moins.
J'ai des frissons d'angoisse rien qu'en y repensant.
4, il y a un brio dans sa nullité, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est unique dans sa nullité. C'est incroyable de nullité.
C'est vrai.
The Last Face, c'est confondant et agressif de nullité et d'offense. Last Christmas, c'est juste nul.
Le meilleur film que tu as vu pendant cette saison?
Bah, tu vas pas du tout être d'accord, mais moi, le film pour lequel j'ai le plus d'affection, c'est Ensorceleuse.
D'accord.
Parce que c'est un film que j'aime personnellement, donc
oui.
Et pour moi c'est un très bon film, même si c'est un film un peu nul.
Oh non, mais c'est vrai que c'était sympa. Hein. Pour moi, honnêtement, il y en a beaucoup. Hein. Pour moi, Battleship, c'est trop bien.
Ah, j'ai failli mettre, mais c'est mon suivant.
Ouais.
C'est la question suivante.
Je pense que ça se joue entre Battleship, Too Fast, Too Furious, qui est vraiment très 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 haut. Et N'oublie jamais.
J'ai hésité avec N'oublie jamais aussi.
Je suis contente parce que N'oublie jamais était assez bas dans mon panthéon personnel avant de le revoir pour cette saison. Et je me rends compte que j'ai été un peu injuste avec
oui,
ce
non,
film.
Oui, vraiment...
Qu'il est quand même très plaisant. Mm. Ta meilleure découverte?
Battleship. Battleship. J'ai failli le mettre en meilleur film. Battleship. Battleship. Incroyable. Super film.
Trop bien.
De la pure qualité du début à la fin. Je comprends même pas qu'on l'ait inclus dans cette saison. C'est un chef-d'œuvre.
Je suis très contente.
Et toi, ta meilleure découverte?
Eh ben, ma meilleure découverte, je pense que c'est Mamma Mia.
Ouais! J'ai failli le mettre dans mon meilleur film aussi, j'adore Mamma Mia.
Ouais. Mais en vrai, c'est parce que...
Parce que toutes les autres sont vraiment pourries.
Puis en fait, il y en a beaucoup qu'on avait déjà vus toutes les deux.
Oui.
Et dans ceux que tu m'as fait découvrir, c'est comme Cendrillon, pour moi, c'est le plus oubliable.
Genre, ouais.
C'est vraiment, j'avais oublié qu'on l'avait fait dans cette saison, hyper anecdotique. Souviens-toi, l'été dernier, hyper oubliable aussi. Et Mamma Mia, il y a un côté où...
Inoubliable.
C'est ça. C'est en fait, tu t'en souviens.
D'ailleurs, moi,
pour
je suis
le meilleur
voir,
et pour le pire.
Je suis allée voir Mamma Mia à Paris, au Casino de Paris, en français. Ça fait un petit choc, les chansons en français, parce que les chansons sont traduites. Mais franchement, même si au début, j'étais un peu genre « Wow, qu'est-ce qui se passe ?», je me suis laissée charmer à nouveau, même en français, quoi. J'adore Mamma Mia.
Je pense que tu adores surtout Abba. Est-ce qu'il y en a... Ouais, non, il n'y a pas vraiment de chef-d'œuvre dans cette saison.
Bah non. Bah si, Battleship.
Ouais. Enfin... Vraiment, Battleship, je pense que c'est le winner de cette saison.
Ah, de ouf.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés, les Pikies, mes petites cailles.
C'est
merci,
pas les
Marie.
Pikies, on assure.
Ah oui, bon. Les amies. Les amies et les Pikies et les petites cailles. Si vous voulez voir ou revoir Dune, le film est disponible sur Mubi, ainsi que plein d'autres films de David Lynch. Je vous incite fortement à aller le regarder. Et vous trouverez très prochainement sur Slate mon classement de tous les films de David Lynch. Et vous pouvez aussi trouver notre ancienne saison d'Amis qui fait tout Twin Peaks et tout Twin Peaks The Return. Donc si vous trouvez qu'on n'a pas assez parlé de David Lynch dans cet épisode, allez-y, c'est vraiment bien. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Amis Naouche, c'est fini. Mais ne vous inquiétez pas, on va continuer à squatter vos oreilles, évidemment, puisqu'on revient dès la semaine prochaine avec notre autre podcast, Pic TV.
Les gens peuvent vraiment pas se débarrasser de nous.
C'est clair. Pic TV, où l'on analyse nos séries préférées. Parfois, c'est l'actualité des séries. Parfois, c'est des séries qui n'existent plus depuis 30 ans. En l'occurrence, notre premier épisode, d'ailleurs, que vous pourrez retrouver très bientôt, a été enregistré en public au festival Sérimania à Lille et il est consacré à une petite série qu'on aime bien qui s'appelle À la Maison Blanche.
The West Wing.
Si vous avez aimé cet épisode et cette saison, vous pouvez nous laisser 5 étoiles, vous devriez même nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve très bientôt pour encore plus d'épisodes d'Amis. Ne vous inquiétez pas, on ne vous lâchera jamais. Ceci est une menace et non pas une promesse.
Une menace envers Slate.
Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.
Imagine le verre, ça, Ben Laden.
Ah, ça me donne envie. En fait, j'ai trop envie de revoir. Souvent, j'ai très très envie de revoir Twin Peaks.
Ah, moi aussi.
Et le début aussi de Twin Peaks.
Mais après, tu le relances et t'es. Ah, c'est vrai que c'est genre 20h quand même.
Ouais. Non, puis qu'il y a des trucs un peu dark dedans et tout ça, mais ouais. C'est tellement bien.
Arrakis will become the center of the universe.
Mec, calme-toi. T'as mué l'année dernière.
Un autre truc aussi pour lequel David Lynch est vraiment doué quand même, c'est trouver des meufs bonnes, quoi.
C'est clair.
Ah ouais, vraiment, il n'y en a pas une qui est moche. Hein. Même l'autre avec son crâne rasé, elle est hyper belle.
Ouais.
Là, ce serait bien de s'il avait voulu faire un parti pris. Ça y est, il bouffe le spice et ça y est, c'est en x2 le film.
C'est clair.
Si seulement.
Je me dis, les gens qui sont allés voir ce film sans savoir à quoi s'attendre, sans avoir lu le livre, ils sont allés là-dedans et c'était wow.
Mais ça reste un des films les plus linéaires de David Lynch.
Rambaldi.
Comme dans Alias.
Exactement, j'allais dire c'est le mec d'Alias.
Moi je suis contente que cette saison se finisse. J'en ai marre de regarder des daubes.
Oh.
Ah bah oui, franchement, au bout d'un moment j'ai envie de regarder des bons films. Merde. Surtout que c'est souvent, à part au cinéma, c'est les seuls films que je regarde dans ma vie, quoi. Parce que je regarde pas beaucoup de films à la maison. Mm. Et donc l'an dernier c'était super, je découvrais des super trucs. Non, là c'est bon, The Last Face, Cat.
C'est vrai qu'on a envie d'un peu de chef-d'œuvre. Ça manquait un petit peu de chef-d'œuvre cette
saison.
Bah
oui.
Voilà.
Bye bye.